Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et je vous remercie de prendre part au grand titre du jour en ce vendredi 8 juillet. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question du viol en Allemagne, de la pilule abortive, des fessées, de Québec qui envisage d'offrir un DEC par cumul, du mode de scrutin proportionnel, de Jason Kenney qui démissionnera dans 3 mois et de la bonne nouvelle du jour. Et oui, mesdames et messieurs, débutons par cet article qui s'intitule « L'Allemagne durcit la législation pénale sur le viol ». Cet article a été publié sur la plateforme de RTI. On retrouve cela sur le www.rti.fr. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, tous les articles qui sont diffusés dans cette émission sont accessibles sur « Décentrer le discours ». Qui est à l'adresse suivante, le www.ericlantier.net, c'est le www.ericlantier.net. Et oui, mesdames et messieurs, l'Allemagne durcit la législation pénale sur le viol. Voici ce qu'on nous dit sur la plateforme du RFI. Non, c'est non. Tout acte sexuel commis contre la volonté identifiable d'une autre personne sera bientôt une infraction pénale en Allemagne. Jusqu'à présent, seules les relations sexuelles obtenues par la violence, par une menace portant sur la vie ou l'intégrité corporelle, ou lorsqu'une victime se trouve privée de toute défense, étaient prises en compte. Les rapports imposés sous la menace de représailles ou lorsque la victime était ivre, inconsciente ou tétanisée par la peur n'étaient pas pénalisés. Le plotage en groupe est désormais une infraction spécifique et les étrangers condamnés pour un délit sexuel pourront être expulsés. Le texte a été adopté à l'unanimité des 601 votants du Bundestag, mais il doit encore être validé à l'automne par la Chambre haute. Et oui, mesdames et messieurs, on vient de durcir les lois et les peines en ce qui concerne les agressions sexuelles et les viols. C'est une bonne chose, mesdames et messieurs, parce que il est important que chaque nation puisse lancer un signal clair sur ce qui est inacceptable dans sa société, au sein de sa culture. Félicitations à l'Allemagne. Nous, ici au Canada, mesdames et messieurs, on a d'autres problèmes. Eh bien, vous savez que lorsqu'une femme se fait violer, souvent, on va lui conseiller ou on va lui offrir la possibilité de passer par un avortement ou de prendre une pilule abortive. Mais ce qui arrive ici, c'est pas si simple que ça d'avoir accès à une pilule abortive, puisque ce qu'on a constaté, c'est qu'on fait face à un problème d'approvisionnement. Voici ce qu'on nous dit dans un article intitulé « Pas si simple, la pilule abortive » qui est publié sur Le Devoir. Un an après l'autorisation de Santé Canada, les femmes n'ont toujours pas accès à cette option. Ce qu'on nous dit également, c'est que le fabricant refuse d'expliquer la raison de ces délais dans la mise en marché, parce que c'est au fabricant de décider du moment de la mise en marché. Mais les stocks ne se rendent pas au lieu d'approvisionnement. Selon la docteure Edith Gilbert, il y aurait un problème sur le plan de l'arrimage, particulièrement dans les autres provinces. Parce que ce qu'on apprend dans cet article, c'est que Santé Canada a imposé des conditions. Que ce soit le médecin qui prescrive le médicament et que ce soit lui qui l'administre également. Parce que si une femme souhaite prendre la pilule abortive, eh bien elle devra prendre la première dose dans le bureau du médecin. À ceci va réagir Anne-Marie Messier, la directrice du Centre de santé des femmes de Montréal, et elle va dire que la première dose, c'est elle qui bloque la progestérone et que là, normalement, les femmes sentent rien. Mais c'est quand elles prennent la deuxième dose que là, ça devient plus sérieux parce que ça va provoquer une fausse couche qui peut être douloureuse avec des crampes et des saignements importants. Et c'est là qu'est tout le litige moral, si on veut, mesdames et messieurs, parce que la pilule abortive, eh bien, ce qu'elle fait, ce qu'on appelle aussi la pilule du lendemain, c'est que si la femme, elle est enceinte, ça va susciter un avortement, donc ça va provoquer une fausse couche préméditée. Si elle n'est pas enceinte, eh bien, évidemment, ça ne peut pas provoquer l'avortement, ça va tout simplement empêcher qu'il y ait fécondité. Et c'est là qu'est tout le dilemme moral. Est-ce qu'un médecin peut donner, par exemple, systématiquement la pilule abortive à une patiente qui lui demande, sans en évaluer les considérations et les conséquences. Maintenant, on tente de trouver des solutions, même que, justement, l'Ordre des pharmaciens a proposé une certaine alternative qui risque d'être considéré. Alors, je vous invite à lire la suite de cet article qui nous démontre que les lois et les conditions ont un impact sur le marché et sur l'approvisionnement de la pilule abortive. J'espère juste, mesdames et messieurs, que les médecins vont pouvoir gérer toutes ces demandes-là en fonction de leur conscience personnelle. Fessé, PMA ou l'enfumage par le sociétal. Eh bien, on retrouve cet article sur la plateforme du Figaro. Ce qui est intéressant, si par exemple, une maman décide de garder son bébé, elle va, s'il est en bonne santé, accoucher de ce bébé-là. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un moment donné, l'enfant va faire des crises ou il va faire des choses qui sont détestables. Et une maman ou un papa, pris en colère, va vouloir sévir. Maintenant, ce qui arrive évidemment, en aucun cas la fessée doit être donnée lorsqu'un parent est en colère. Et certains vont dire qu'en aucun cas, la fessée doit être donnée, point. Et il y en a qui vont plus loin, comme la France. Eh bien, on a illégalisé la fessée. Voici ce qu'on nous dit sur le Figaro. Dans le cadre du projet de loi Égalité et citoyenneté, l'amendement anti-fessée a été adopté la semaine dernière. Lors des mariages civils, à la formule rituelle sera ajouté « Les époux ne doivent pas infliger de violences corporelles à leurs éventuels enfants. » Savez-vous quoi? Quand je lis ça, la seule chose que ça peut faire, c'est me faire réagir. Parce que moi, comme célébrant, je me vois mal dire « Es-tu prêt à demeurer fidèle, à l'aimer dans les bons et les mauvais jours et ne pas infliger de violences corporelles à vos éventuels enfants? Oui, je le veux. » Je ne sais pas, mais il me semble que ce n'est pas l'endroit pour ça. Là. Il y a quelque chose, comme disait un célèbre Québécois, ça ne fit pas. Mais vous savez quoi, mesdames et messieurs, il n'y a pas seulement ça. Ici, ce qu'on nous dit dans cet article, eh bien, c'est Jean-Paul Brighelli qui va mentionner ceci. Depuis 2012, chaque fois que ce gouvernement est en perdition, il fait voter une loi sociétale qui ne lui coûte rien, mais qui remue l'opinion. C'est plus simple que de faire reculer le chômage. Alors, ce que M. Brighelli va soulever, c'est que c'est une loi qui est un peu un écran de fumée pour aller chercher la sympathie de la population, parce que la majorité des gens sont contre la fessée. Mais, en d'autres mots, selon l'auteur de cet article, ça ne règle rien, puisqu'il dit ceci. Un amendement anti-fessé ne camoufle guère le fait que deux enfants meurent chaque jour en France du fait des mauvais traitements infligés par leurs parents. Et il ne s'agit pas de fessé. Le nouvel amendement anti-fessé n'aura qu'une portée symbolique car il n'entraîne pas de sanctions pénales nouvelles. Et donc, à quoi ça sert? Une loi symbolique. Pouvez-vous me le dire, mesdames et messieurs? Eh bien, si vous voulez en discuter, vous pouvez m'écrire à leblogueur, à commercial, ericlantier.net. C'est le blogueur à commercial ericlantier.net. Sur la plateforme du Devoir, eh bien, Québec envisage d'offrir un DEC par cumul. Eh bien, moi, mesdames et messieurs, je suis pour la formation technique au cégep. Et je pense même qu'on devrait jumeler la formation technique au cégep avec les diplômes d'études professionnelles pour donner un peu plus de valeur et de sérieux à certains diplômes d'études professionnelles. Et quand je parle de jumeler, je parle d'associer les élèves dans un même bâtiment. Si, par exemple, un élève gradue du secondaire et s'en va faire un parcours en professionnel, il veut s'en aller en vente conseil, et qu'un autre élève, lui, opte pour le programme d'électrotechnique, eh bien que ça puisse se vivre dans un cégep. Par contre, on devrait abolir les diplômes d'études collégiales qui sont généraux ou qui mène à l'université. Il me semble qu'au lieu, on devrait avoir pour tous les baccalauréats des programmes de 4 ans, parce qu'il y en a plusieurs qui sont encore seulement à 3 ans, et donc pour mieux préparer les élèves qui sortent du secondaire. Maintenant, si j'étais ministre de l'Éducation, je réviserais le secondaire pour que les élèves soient mieux préparés au cheminement universitaire. À ce moment-là, en secondaire 5, ceux qui vont soit vers une technique, soit vers un programme professionnel, ou soit vers l'université, alors il y aurait des options préparatoires pour chacun des cheminements. Il me semble que c'est la voie à suivre, mesdames et messieurs. Réforme du mode de scrutin, eh bien, vous savez quoi? Un référendum sur la réforme du mode de scrutin coûterait 300 millions de dollars. Eh bien, mesdames et messieurs, moi, je suis pour un gouvernement qui dépense le moins possible, mais dans ce cas-ci, puisque ça va améliorer notre démocratie, ça va nous amener une meilleure représentativité de la population, je pense que le coût en vaut l'investissement. Alors, je vous invite à lire cet article. Réforme du mode de scrutin, un référendum coûterait 300 millions de dollars sur la plateforme du Devoir. Avant de passer à la bonne nouvelle du jour, eh bien, Jason Kenney démissionnera dans 3 mois. Eh oui, il veut unir toutes les forces conservatrices en Alberta pour redonner aux conservateurs le pouvoir. Et son tour de force va être de réunir les progressistes conservateurs et le Wild Rose. Félicitations, M. Kenney, puisque vous êtes courageux. Vous avez fait votre marque au fédéral. Eh bien, maintenant, le provincial vous attend à bras ouverts avec de grands défis. Eh bien, je ne suis pas inquiète pour vous. Vous allez être capable de surmonter ces vents et marées. Et tel que promis, la bonne nouvelle du jour, voici ce que nous apprend Newswire. Façonner aujourd'hui le Montréal de demain, une exposition mettant en valeur les grands projets d'infrastructure en cours dans la métropole. Voici ce qu'on nous dit. Le président du Conseil de ville de Montréal, M. Franz Benjamin, et le maire de Montréal, M. Denis Coderre, ont procédé au vernissage de l'exposition « Façonner aujourd'hui le Montréal de demain », présentée jusqu'au 27 août prochain dans le hall d'honneur de l'Hôtel de ville de Montréal. En parcourant l'exposition « Façonner aujourd'hui le Montréal de demain », le visiteur pourra se familiariser avec une vingtaine de projets urbains structurants actuellement en cours de réalisation dans la métropole et présentés récemment dans le cadre de l'exposition « Montréal du futur ». L'Hôtel de ville est ainsi transformé en vitrine des projets d'infrastructure afin de pouvoir informer les Montréalaises et Montréalais du développement de leur ville, a déclaré M. Benjamin. Eh bien, félicitations, puisque on donne une vision de ce qui va se passer, de ce qui va se réaliser dans le futur, au travers l'art. Pour moi, c'est une association très intéressante. C'est un mélange de culture et de réalisation. Félicitations à M. Coderre et son équipe pour cette réalisation, cette initiative qui en vaut la chandelle. Alors, puisque le temps nous poursuit, eh bien, laissez-moi vous rappeler que les liens reliés aux articles cités dans le cadre de cette émission sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à lundi.